Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, notre trio de GG, Sarah Salman, avocate, Bruno Pomard, ancien policier du Raid, maire de Belleflot dans l'Aude. Et puis nous sommes avec Étienne Niebig, qui est éducateur anthropologue. Troisième heure des GG, les deux premières heures sont déjà disponibles sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Dans les podcasts, qui fait que si vous avez un peu de retard, ça peut arriver, vous avez sûrement une bonne raison. Et ben vous, hop, vous rattrapez déjà les GG. Et puis vous les avez sur les réseaux sociaux, notamment sur l'appli Twitter. Notre compte Twitter avec toutes les vidéos qui sont postées par Alexandra Bischoff, notre community manager, pour encore quelques heures. Vous l'avez aperçu il y a un instant.
On peut m'inviter à manger, comme ça vous m'avez en direct. Et puis je suis assez disponible.
Et puis tu manges pas trop.
Oh, je mange pas, non, franchement.
Mais il picole.
Une petite entrée. Un plat, pas de dessert.
Pas de dessert, jamais.
Un petit verre de vin. Ouais, mais avec modération.
Je vous fais les grandes gueules en
j'aimerais
en
pas
direct.
Aller au restaurant avec Sarah, par contre, tu ne dois pas manger beaucoup.
Mais si, au contraire.
Franchement, alors je vais dire, franchement, tout le monde m'a dit ça. Qui a pris un burger la dernière fois qu'on a déjeuné tous ensemble? Vous avez tous pris vos petites salades, là, j'étais la seule avec mon burger et mes frites.
Ouais, bah, donc, tu peux te permettre.
Donc, arrêtez avec vos préjugés.
Il vaut mieux l'avoir en photo qu'en pension, Sarah, je peux te dire, ça becte à cet âge-là.
Mais je bois pas, donc la facture.
C'est vrai. C'est ça, oui. Donc la suite des réjouissances dans les GG tout à l'heure à 11h20, le GG 7 et match autour des gardiens d'immeubles assermentés. C'est en train de se développer, c'est parti de Paris, gardiens d'immeubles assermentés, concierges assermentés, c'est-à-dire en fait ils peuvent dresser des PV aux locataires avec des amendes pour incivilité. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut le généraliser, les gardiens d'immeubles assermentés? Oui pour Sarah, non pour Étienne et Bruno. Et vous venez en parler avec nous à 11h20. En attendant, c'est le à vous de choisir.
RMC les grandes gueules.
À vous de choisir.
C'est de plus en plus répandu et ils ont encore frappé. Ce sont les membres du collectif écologiste qui partout en France, la nuit, dégonflent les pneus des SUV. Et ça s'est passé dans la nuit de mercredi à Lambersart dans le Nord. 65 SUV dégonflés. Ça a eu lieu aussi en Gironde. Alors, dans ces cas-là, ils dégonflent les pneus et puis ils laissent un tract avec écrit « Conduire un véhicule de cette taille dans une ville », là c'était Lambersart-Lille, « est particulièrement néfaste et inutile ». Ou alors, il y a un slogan comme « Système capitaliste mortifère ». Ou bien, il faut faire des choix politiques forts en faveur du climat, avec contraindre ça, ouais. L'usage de ces véhicules polluants. Vous pouvez aussi trouver à non à votre véhicule polluant, changer de voiture. Alors, est-ce que les dégonfleurs de pneus qui frappent de plus en plus régulièrement ont raison? Est-ce que c'est ridicule? Est-ce que c'est efficace? 32-16 pour le dire au GG, parce que c'est vous qui avez demandé à ce qu'on choisisse ce sujet de discussion.
C'est affligeant, j'espère qu'ils vont finir par se dégonfler le cerveau, parce que là vraiment c'est plus possible.
Ils l'ont déjà dégonflé.
Non, manifestement là il en reste un petit peu, parce qu'ils ont encore des soubresauts. Je trouve que c'est affligeant, parce que les personnes qui achètent ces véhicules, c'est eux qui sont pénalisés. Le dérèglement climatique, ça ne va rien changer. Donc ils font des actions qui ne servent à rien, qui discréditent une cause, l'écologie, bon, qui moi, m'intéresse plus ou moins, mais peu importe. Je trouve... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dit l'écologie, c'est important, à part jeter de la peinture sur les tableaux, détruire des biens, faire n'importe quoi, bloquer des routes, emmerder tout le monde, ils ne font rien concrètement. Donc ce serait bien qu'ils aillent soit travailler, soit faire des choses efficaces, mais là vraiment ils se trompent de cible, ils se trompent de combat, donc je ne sais même pas s'ils ont compris ce que c'était l'écologie, ça se trouve, même moi j'ai mieux compris qu'eux, c'est quand même pour...
Tu as raison Sarah, de toute manière, mais ces forces soit obscures, là, seraient mieux à faire des propositions, de véritables propositions avec des associations, des choses concrètes.
En général, ils sont membres d'associations, de collectifs.
Écouter quand on fait de la proposition concrète.
Je sais que tu es d'accord
immédiatement,
avec...
Tout le monde craque.
Moi, j'en ai un de 4x4, je vais te dire. Il est moins polluant que leurs bagnoles, les bagnoles avec lesquelles ils roulent. Attention, les 4x4 modernes.
En général, ils n'ont pas de bagnole.
Tu parles, pas évident. C'est des lâches, c'est des lâches. Il n'y a pas d'autre mot.
C'est des petits cons, on peut le dire.
Oui, c'est des lâches, c'est des lâches. Et encore une fois, ça va dans la droite ligne de ce que est l'écologie actuelle, EELV, dont tu fais partie.
définitive, radicale.
Tu as souri pendant toute l'intervention de Sarah.
Il y a eu un rictus. Il y a eu un rictus indéniable.
Oui, parce que j'ai souri parce que
on va sauver la planète avec ça.
C'est assez intéressant parce qu'en réalité, quand on fait des actions violentes, ce qu'on a appelé toute une partie de l'action violente, donc c'est des actions qui sont revendiquées comme violentes, comme par exemple casser la porte du ministère pour rentrer, etc.
Oui, ça fait avancer.
Ah là là,
attendez,
bravo.
Qu'Étienne parle.
Puis les dégâts, qu'il les répare.
Attendez.
C'était des gilets jaunes, je pensais qu'ils étaient soutenus par la population. Oui. Donc, on critique les actions violentes là. Visiblement, il y a tout un mouvement qui est passé aux actions non violentes, c'est-à-dire des actions qui sont basées sur des, qui sont copiées sur des actions non violentes, sur des, en fait, c'est des théories d'actions non violentes qui sont nées en Inde, mais qui sont aujourd'hui aux États-Unis partout, qui sont des actions où, par exemple, on s'assoit et on attend d'être délogé.
Tu fais chier tous les gens qui vont partir travailler le matin, ouais.
Attendez, fini.
Et le dégonflage des SUV, ça rentre tout à fait dans cet esprit-là, c'est-à-dire on crève même pas les pneus, c'est une action non violente, c'est absurde, évidemment, d'avoir un SUV en ville.
Les gens sont libres d'avoir ce qu'ils veulent.
Je pense déjà que l'image du SUV, ça c'est intéressant parce que déjà dans l'esprit de la jeunesse, l'image du SUV c'est vraiment une image ringardose.
Oui, Il faut être tellement con et avoir des problèmes d'identité personnelle pour avoir besoin
d'une grosse bagnole en ville. C'est d'une absurdité totale. Regardez comme je suis grand et regardez comme je suis fort. Donc déjà cette image-là, mais après tu peux y croire.
Sandrine Rousseau sort de ce corps.
Tu peux penser ce que tu veux. Je dis juste que l'image, elle a été complètement, elle est déjà ridicule. Déjà c'est ridicule. Donc moi je pense qu'effectivement j'ai les chiffres là. Si vous voulez, je les sortirai sur le nombre de kilomètres qui sont faits par les Français en France. J'ai les chiffres très précis de la dernière étude. Aujourd'hui en France, par exemple, en ville. 60% des transports font moins de 2 km en voiture. Oui. Donc les gens ont des SUV pour faire 2 km en voiture. Il y a quelque chose là-dedans d'une absurdité. On ne fait pas de mal. Ils cassent pas les vitres.
Ils dégonflent. Après, il faut les regonfler. Les gens ont envie de c'est une dégradation de la détérioration et c'est un délit.
Tu
cautionnes donc la délinquance, en fait.
Soit en métro, soit en scooter.
Ah, un scooter, tu veux venir à vélo, mon ami?
Je peux pas, j'habite en banlieue.
J'habite pas
dans le 7e arrondissement.
Un scooter de taille, ça pollue énormément avec l'huile, etc. Tu devrais venir à vélo, mon ami.
Je dis pas que je suis exemplaire. On est en train de parler d'une lutte qui s'organise là aujourd'hui. Moi, je fais suis pas ELV. Elle s'organise sur des principes non violents, c'est-à-dire des principes.
C'est pas violent, ça?
Non, c'est pas violent.
C'est violent. Non, mais c'est un délit.
Il va se barrer.
Ça y est. Il a la matinée de l'entreprise qui va pas pouvoir aller bosser.
Mais oui.
On tombe toujours sur le chef d'entreprise, on sait très bien que 90% ils vont servir à emmener le gamin à l'école au bout de la rue.
Il a quand même le droit d'avoir un SUV, c'est sa liberté la plus stricte.
Mais on lui vole pas son SUV.
Oui, on le pénalise, on détériore.
Ce qu'on peut leur reprocher, c'est aussi le manque de discernement dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, tu as des SUV qui sont des SUV hybrides,
mais souvent,
voire électriques. Parfois, ce n'est pas marqué non plus sur la voiture, mais simplement comme elle est grosse, massive, imposante, si tu veux, il la dégonfle par idéologie.
Or, par
souvent,
jalousie.
Bon nombre de ces SUV consomment beaucoup moins aujourd'hui en essence que d'autres voitures, malheureusement, qui elles appartiennent à des ménages plus modeste.
Mais c'est étonnant que la France.
Et c'est plus par idéologie à ce moment-là qu'on les dégonfle.
Pourquoi la France a une espèce de record concernant ses ventes de SUV? C'est très étonnant dans un pays où il n'y a pas de cote à 50% pour aller chercher des boutons.
Bien souvent, ce sont des familles qui les achètent.
Ils sont pas obligés d'avoir.
Ce sont aussi les femmes qui les choisissent parce qu'elles se sentent davantage en sécurité, protégées un peu plus en hauteur. Voilà les paramètres qui font aussi que le SUV est devenu très vendu. C'est Bruno qui va en parler avec nous. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Bonjour Bruno.
Allez-y, on vous écoute.
Alors je suis propriétaire d'un SUV, mais bon bref, ça n'a rien à voir. Je suis mécanicien de formation. Déjà les résidents, tout ça, c'est que on dit toujours que le SUV consomme énormément parce que c'est une voiture lourde. On peut déjà dire qu'il y a des berlines déjà qui sont plus lourdes que des SUV. Moi, j'avais avant une Opel Corsa, je consommais beaucoup plus que mon SUV en fait. Je faisais, c'est une voiture qui est pas faite pour la ville. On fait beaucoup de petits trajets de ville et en fait, ça abîme les moteurs. Et les moteurs consomment beaucoup plus et en fait, s'encrassent. En fait, la consommation, beaucoup de gens se trompent. Il y a des petites voitures qu'on n'attaque pas, mais qui sont en 6 cylindres par exemple, qui consomment beaucoup plus qu'un 4 cylindres. Et en plus, en fait, je comprends pas cette guerre par rapport aux SUV en fait, qui sont juste des véhicules pratiques et qui ne consomment pas spécialement plus.
Pratique, excusez-moi, juste quand vous dites pratique, pourquoi d'avoir 4 roues motrices ? Quelle est la praticité en ville ?
Alors, un SUV n'est pas un 4x4, monsieur. Un SUV, c'est pas 4 roues motrices. La mienne a 2 roues motrices, par exemple. Oui. En fait, c'est ça, la connaissance des gens, c'est qu'un SUV, c'est pas un 4x4. Un SUV, c'est une voiture qui est, par exemple, je prends une Volkswagen, par exemple, excusez-moi de dire des marques, mais la Golf.
Non, allez-y.
Un SUV, c'est un Tiguan qui est, en fait, une Golf rehaussée, réagrandie. Donc, c'est pratique pour les familles.
C'est pour ça qu'on dit sport utility véhicule.
Mais pourquoi
c'est un véhicule utilité. Alors, c'est des États-Unis. Sportive, entre guillemets, parce qu'en fait, tu mettais dedans les affaires de sport de la famille pour partir.
Oui,
c'est
là,
juste
là,
pour ça qu'on a grossi un peu le
véhicule. L'utilité d'avoir un véhicule.
Moi, la pratique, c'est que moi, par exemple, j'ai un bébé, donc j'ai le lit pliant dans le truc, j'ai un petit bain pliant dans le coffre. J'ai aussi mes affaires de football.
Mais il y a plein de bagnoles 5 portes qui font ça.
Mais non,
mais vous rendez pas compte que c'est pas aussi pratique et on peut pas tout mettre. Sinon, je vais sur les banquettes et dans ce cas-là,
c'est pas ça, c'est que les gens sont encore libres d'acheter ce qu'ils veulent.
Voilà. Mais c'est pas la question des.
Et moi, tu sais pourquoi ? Regarde, mon beau-fils, il a un RAM chargeur. Un truc énorme. À l'éthanol, il consomme au moins que ton scooter de temps, là. À l'éthanol, il est. Tu vois ? Et pourquoi il a pris ? Parce que j'ai 3 petits-enfants. Et que ma fille a envie d'être en sécurité. Elle se trimballe avec ça. Et il consomme moins que ton scooter.
Ici, en Paris, région parisienne ou dans
dans le sud.
La campagne.
Dans le sud. Oui, bien sûr.
Ah oui, d'accord.
Oui, parce que c'est quand même un truc qui fait 6 mètres de longue.
Et puis, il roule énormément.
Oui, mais il est à l'éthanol.
Que ça occupe,
il a des remorques.
C'est la campagne. Là, c'est les grandes villes.
Non, mais il est à l'éthanol.
Oui, d'accord, c'est très bien.
Il bouffe moins que la Clio.
Mais du coup, Bruno, admettons qu'un matin, comme ça, vous trouviez votre SUV dégonflé, que vous tombiez sur l'un de membres de ce collectif. Qu'est-ce que vous feriez ?
Déjà, j'aimerais bien lui parler, mais ça m'étonnerait qu'il reste à parler, parce que ce genre de personne, malheureusement, n'aime pas parler, n'aime pas avoir tort, en fait.
Et bam !
Ils n'aiment pas avoir tort, ils ne connaissent pas leur sujet, en fait, c'est ça le problème. Des gens qui ne connaissent pas leur sujet.
Étienne, c'est pour toi.
Ce sont des lâches.
Non, mais c'est une divergence d'opinion, simplement.
Pas.
Des
moi, je suis assez d'accord avec monsieur. La question, je suis d'accord même
pour
dire.
Non, mais t'es fort quand même.
Je suis même d'accord pour dire que très probablement, ils connaissent pas leur sujet. Je suis tout à fait d'accord. Je dis juste que là, on est dans une action non violente. C'est-à-dire que
c'est violent, ça, Étienne.
Mais attends, c'est un ensemble.
C'est violent.
S'asseoir sur le périphérique. S'asseoir sur le périphérique. Balancer de la soupe.
C'est violent.
C'est violent.
Monsieur, demain, je dois aller à l'hôpital emmener mon bébé, en fait. C'est non violent d'avoir
ça y est, le coup du bébé à l'hôpital.
Mais oui, mais il a raison.
C'est violent, Étienne.
On ne connaît pas la vie des gens, on ne peut pas ce qui peut arriver demain.
Il peut y avoir une urgence.
Non, mais il est dans les clichés, Étienne.
C'est pas un cliché, le bébé malade qu'il faut emmener à l'hôpital.
Merci, Bruno. Sébastien va intervenir. Bruno des Hauts-de-Seine, Sébastien de Haute-Garonne. Bonjour, Sébastien.
Une action non violente, alors.
Une action pacifique.
C'est ça, c'en est une.
Attention. Allez-y,
bonjour Sébastien.
Bonjour. Alors moi j'appelle parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois que vous traitez ce sujet et en fait, quand on parle d'action non violente, moi je suis désolé, c'est une action non violente, terme physiquement, mais c'est violent parce que moi qui suis, j'habite en campagne, bon je suis peut-être pas forcément très touché par ce problème-là.
Pas concerné du tout même.
Ouais,
ça n'empêche pas d'exprimer en fait.
Par contre, moi j'ai un SUV, je suis père de 3 enfants, donc pareil, Étienne va redire le problème, le cliché de l'enfant. Moi, si demain matin mon véhicule est dégonflé, donc je fais comment en pleine nuit ?
Et il ne sera pas dégonflé, puisque vous êtes à la campagne.
Et qu'est-ce que t'en sais ?
Je pense aux autres aussi, je pense aux autres. Donc moi j'ai un SUV aussi qui est équipé au bioéthanol depuis 4 ans. Au terme de consommation, mais je reprends un peu ce qu'il a dit l'auditeur avant, ça ne consomme pas plus, on consomme moins même que certains véhicules. On roule entre guillemets propre, bon ça s'arrête à prouver, mais voilà. Par contre, moi, je suis ancien pompier volontaire. On me fait ça à mon véhicule. Je fais comment en pleine nuit pour aller.
Dites-moi, la question de la lutte, la question de la. Bon, aujourd'hui, il y a un problème. Bon, la France est toute dernière sur la question de la prise de conscience du réchauffement climatique. On est très très mal placé puisque effectivement, on a une très forte opposition. Tout ce qu'on propose, tout ce que les Verts proposent, tout ce qui est proposé, c'est rejeté en disant ce sont des bobos, ce sont des woke et tout le bordel. Donc, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand on est absolument persuadé et que et en plus on est soutenu par beaucoup de gens. Oui, qu'est-ce sais. Qu'on peut faire quand en lutte qui ne soit pas une lutte violente, mais qui soit une lutte qui soit symbolique, à part se pendre, non. s'attacher les mains, se pendre.
Pourquoi pas faire des forums ou des.
Mais on fait que ça des forums. Il y en a tous les jours des forums.
Sébastien.
Non, c'est de l'énergie punitive qui se passe.
Mais il y en a tous les jours. Mais l'écologie elle est punitive. Elle sera punitive.
Et radicale.
Je suis père de trois enfants. Mes enfants, j'ai la chance, hein, je viens en campagne. J'explique à mes enfants que on fait le compost, on trie nos déchets. J'ai une voiture, je suis un SUV, mais je suis en bioéthanol. J'ai une voiture électrique à côté. Je fais attention à ma consommation électrique. Mais ouais, mais alors pourquoi?
Mais vous êtes. Sébastien, ouais. c'est pour ça qu'ils agissent essentiellement dans les centres-villes. Dans les centres-villes. Alors, après, vous avez raison sur une chose, c'est qu'ils ne connaissent pas la vie de ces gens-là, qui sont peut-être des SUV parce qu'ils ont des familles nombreuses, parce que régulièrement ils partent à l'extérieur de l'île, puisque là c'est l'Alberta.
Parce qu'ils ont envie d'en acheter un, c'est tout, merde.
Mais c'est justement, ils luttent contre cet égoïsme en disant aujourd'hui notre société n'est plus dépendante du plaisir de s'acheter une belle bagnole ou une grosse caisse.
Mais qui s'apprennent ouvrés. Et tu sais quoi? Allez faire un barrage au milieu de la Manche et arrêter les super tankers.
C'est quoi les vrais?
Arrête de déconner.
Mais c'est comment par eux-mêmes changer des choses dans leur vie?
Qu'est-ce que tu connais de la vie des gens?
Et toi, qu'est-ce que tu en connais?
Je connais la vie des écolos.
Pas plus que nous. Quand tu vois sur le périph,
ils ont fait chier tout le monde.
Mais c'est violent ça.
Bah oui.
Mais putain, mais il
mais qu'est-ce que c'est qu'une lutte malade ou quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une lutte non violente?
Ah ben voilà,
tu vois. Mais réponds-moi, qu'est-ce qu'une lutte non violente?
C'est tenir ça.
Mais c'est pas violent.
Pourquoi ça faire une manif, c'est violent. Au moment où on s'assoit, ce qui a été défini par le maître de la violence.
Vous ouvrez,
l'atteinte au bien, juridiquement, une atteinte au bien, qu'est-ce que tu peux en dire?
Bah, l'atteinte au bien, ils ont qu'à porter plainte.
Ah oui. Ouais. D'accord. On va voir
dégonfler les pneus. On va voir ce que le tribunal dira.
Merci Sébastien. 12 minutes de discussion qui enflamme à chaque fois qu'on évoque cette question.
On peut dire vous êtes trois contre moi. C'est pas évident.
Non, il est pas contre.
On va regarder. Moi, je leur reproche un peu un manque de discernement.
De discernement.
Ridicule. 92% pour les dégonfleurs de pneus qui ont encore frappé. Ridicule ou efficace.
Bravo Étienne.
Ridicule.
Oui, mais il nous a écrasé sur les deux.
Allez, dans un instant, ça va être Sarah seule face au reste du monde, Étienne et Bruno côte à côte, gardien d'immeuble assermenté, qu'ils puissent mettre des PV aux locataires qui sont ou aux propriétaires, mais enfin surtout dans les HLM qui sont dans l'incivisme total, les dépôts d'ordures, les vélos, trottinettes qui sont laissés dans les parties communes, les tags, les graffitis, les gardiens assermentés, est-ce qu'il faut les généraliser, c'est qu'ils pourront mettre des amendes sonnantes et trébuchantes à payer. Pour contre, à tout de suite avec les GG.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules, Sarah Salman, Bruno Pomard, Étienne Yebig. Pour une fois, Étienne et Bruno vont faire équipe ensemble face à Sarah Salman. C'est l'heure du GG 7 et match.
RMC,
GG 7 et match.
Style et blême. Mon HLM,
ah, c'est Renault.
Et l'amour du 8e, le HLM.
Ouais.
Au premier, dans mon HLM.
Alors depuis 2018, le bailleur social Paris Habitat forme des gardiens, des gardes particuliers assermentés. Bref, c'est comme si on donnait un carnet à souche, je prends l'image, à votre concierge et qu'il vous verbalise si jamais vous balancez des cartons dans les parties communes ou vous laissez votre vélo ou vos courses ou vous abandonniez quoi que ce soit en attendant de le ranger. Précisément, en fait, le bailleur Paris Habitat dit aujourd'hui, c'est l'incivisme qui est le principal fléau pour les locataires et les propriétaires. Donc, il faut dissuader, et pour dissuader, il faut verbaliser les mauvais comportements de certains locataires. Alors, les procès-verbaux pour encombrant abandonné, pour vol, comme jet de déchets par les fenêtres et autres, ça peut aller de 38 à 3 750 €. En majorité, ce sont des délits classiques. Depuis 2018, Paris Habitat revendique 1200 PV. Il faut que les gens soient pris sur le fait pour que le PV soit valable.
Alors, ça, c'est pour le délit.
Est-ce qu'il faut généraliser ces gardiens, ces concierges assermentés qui peuvent donner des amendes? Oui ou non? C'est notre GG 7 et match. Non pour Étienne et Bruno. Oui pour Sarah. Sarah, les 60 secondes, c'est pour toi.
Alors, je suis pour et de prime abord, j'aurais peut-être, je vais quand même mettre quelques nuances, ça peut m'arriver.
Ça commence.
2 jours de formation, c'est pas beaucoup. 10 heures de formation, c'est pas beaucoup non plus. Mais je vais vous dire pourquoi je dis oui. Alors, moi, je n'étais pas en HLM, mais j'ai connu les incivilités au point où je ne pouvais plus vivre. C'était du tapage nocturne. On appelait la police qui mettait 68 euros, qui mettait 3 heures à intervenir. Et ça aurait grandement rendu service à tout le monde que la concierge puisse faire quelque chose. Parce qu'ensuite, la procédure en justice a pris trop de temps. Tout le monde a déménagé. On a été beaucoup à déménager et ça a été épouvantable le tapage nocturne. Donc quand on l'a vécu, on sait ce que c'est. Et d'ailleurs, il y a, moi, les chiffres que j'ai, c'est 1183 PV dressés depuis 2018. Donc ça montre que c'est plus dissuasif que du passage à l'action. En revanche, je pense qu'on aurait pu s'arrêter aux contraventions sans aller jusqu'au délit, parce que l'amende 3750 euros, c'est quand même pas rien. Et le risque, c'est quand même que ça crée des dysfonctionnements entre concierge et voisin. Mais sur le principe, bien sûr, je suis pour. Ça sera dissuasif. C'est comme mettre une caméra, c'est dissuasif.
Alors,
je vais parler vite pour en caler le plus possible.
T'as tenu ta minute. Réponse, Bruno, Étienne, qui démarre de vous deux, des chevelus là.
Deux arguments essentiels. D'abord, j'ai fait une enquête pour le très bon journal Ciné Mensuel sur les gardiens à partir de plaintes de locataires, et notamment sur des gardiens qui louaient les caves, des gardiens qui sous-louaient l'horloge, des gardiens qui... Enfin, c'est pas non plus tout à fait des gendarmes, même s'ils sont assermentés, je parle de ça sur Paris, c'est-à-dire que c'est pas toujours des gens extraordinaires sur le plan de l'éthique professionnelle, donc ça, c'est une chose, et la mairie de Paris le sait très bien d'ailleurs, il y a une chasse. Et deuxièmement, je rappelle que le lien... souvent qui se fait, alors là je parle plus en banlieue mais aussi à Paris, qui se fait entre les locataires et les propriétaires et le gardien est extrêmement important pour une gestion du quotidien.
Ah oui.
C'est-à-dire que c'est cette espèce de façon de gérer les problèmes comme ils savent très bien souvent le faire par la discussion, par la pression, etc., etc. À partir du moment où il va y avoir une amende qui va être donnée, ce type de lien sera fini. C'est-à-dire qu'on arrivera à ce lien qui malheureusement s'est développé avec la police très souvent. C'est-à-dire que on a plus ce lien qu'on avait avec le garde,
le type que tu détestes.
Je dirais avec le garde champêtre. Ouais. En gros, on avait un lien, on se faisait engueuler par le garde champêtre si on mettait un collet pour attraper un lapin. Aujourd'hui, tu te prends directement l'amende et du coup, le lien n'est plus du coup un lien d'homme à homme ou de femme à femme ou d'homme à femme. Il est un lien purement de répression. Et ce lien de répression qui rentre dans le rapport humain, évidemment, casse évidemment toute forme de négociation. Donc, c'est la police connaît ça très bien. La police travaille sur ce fait de négocier. C'est-à-dire essayer de discuter toujours jusqu'à ce qu'on reconnaisse sa propre faute et que finalement on trouve l'amende juste. Mais si on arrive direct et contre le col, donc il y a quelque chose là de l'ordre du pédagogique qui disparaîtra.
Alors on parle d'incivilité répétée en l'espèce.
Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Étienne, évidemment. Le gardien d'immeuble comme on avait avant et que tu as connu, puisque tu en parlais à l'instant, il y a 15-20 ans, effectivement, il avait ce véritable rôle. Il a un peu moins dans certains endroits, parce que si on généralise ça, ça veut dire dans tout un tas de cités qu'on connaît particulièrement. Et je pense que c'est pas vraiment le rôle du gardien, parce qu'il peut pas se positionner. Comme le disait très justement Étienne, il avait un rôle pédagogique et en même temps d'entraide, de discuter avec les gens, de tiens, comment ça se passe. Voilà. Il est pas là pour faire de la répression, parce qu'à partir du moment où tu fous un PV, tu fais de la répression et tu te fais mal voir. Compte tenu du niveau de violence qu'on peut
raconter. Tu te fais mal voir par ceux qui veulent mal te voir, parce qu'il y en a peut-être à qui tu dises merci monsieur, enfin, vous avez agi, vous avez réagi, merci.
Je suis d'accord avec toi.
Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que dans certains quartiers, dans certains immeubles, il y a quand même des niveaux de violence qui sont importants, avec des jeunes qui ne respectent pas toujours les règles. Et il faut savoir qu'il y a une chose qui s'est développée et qui évite à nos policiers d'intervenir à tour de bras pour lutter contre les incivilités, c'est le GPIS, qui est dans le 18, 19, 20 et la Petite Couronne. C'est le groupe que je connais bien parce qu'il travaille avec la police. Le groupe parisien interbailleur de surveillance. C'est 180 personnes habilitées, assermentées, qui sont capables d'intervenir.
C'est la même chose.
Mais
toi-même, tu parles de gens assermentés.
Oui, mais
donc
c'est pas le gardien. Le gardien, il doit avoir un autre rôle que celui-là. Ceux-là même, je peux vous assurer que les bailleurs sont très contents de les avoir. C'est des équipes de mecs équipés qui ont juste un tonfa et une gazeuse. Mais ils sont là pour régler les vrais problèmes d'incivilité que ne peut pas faire un gardien. Un gardien, il se fait expulser, voire il se fait virer de quartier s'il s'amuse à faire ça. Et ça, c'est le risque que ça peut avoir de donner une assermentation systématique à tous les gardiens.
Oui, voilà. Enfin, ils sont 400 actuellement.
Oui, mais on pourra en créer des milliers et des milliers.
Oui, mais on voit bien qu'aujourd'hui, Le rôle du gardien d'immeuble, il a changé, tu sais,
ah oui.
Seul et dans tous les quartiers, hein, d'ailleurs. Dans tous les quartiers.
Faut pas lui demander de faire le flic.
Même dans les beaux quartiers de Paris, parce que les populations ont changé, les comportements ont changé.
Bien sûr.
Parce que la sociologie des familles aussi a changé. Avant, c'est plus. Bonjour, je vous avais laissé mes clés, je peux les récupérer. Vous avez du courrier pour moi. Vous êtes monté nourrir le poisson. T'avais laissé les clés. Ça existe encore.
Oui, ça existe quand même.
Mais sauf que aujourd'hui, on attend maintenant davantage du gardien parce qu'il y a les livreurs qui sont là, parce que aujourd'hui t'as les familles qui sont recomposées, t'as les gamins qui ne rentrent plus aux mêmes heures comme avant, parce que effectivement tu as du tapage nocturne qui est de plus en plus fréquent, tu as de la violence intra-couple qui s'est aussi développée, et le gardien c'est parfois souvent un des premiers à intervenir. Et moi je vois même dans les quartiers où je suis, qui sont le 16e, t'as de l'incivilité, tu dis, mais c'est
et là t'arrives
c'est
à
pas le... possible. Non. Tu, mais même toi tu te dis, tiens, je suis dans le 16e, qui est normalement de zone un peu protégée.
Allez, mec,
c'est fini tout ça. Oui. Et qui intervient en premier?
C'est le gardien.
C'est le gardien. Mais... Et c'est souvent d'ailleurs des gardiennes.
Oui,
sont là,
c'est vrai.
Des femmes.
Donc il faut leur donner ce pouvoir parce que ça fait réfléchir de toutes les manières. Il faut pas qu'elles aillent au carton.
Alain, justement, tu descends de chez toi, tu vois quelqu'un a laissé sa planche à repasser pourrie dans le couloir. Mm. Tu dis merde, ça, vous pouvez pas. Bon, tu préviens le gardien, tu dis c'est quand même dégueulasse, et tout.
En général,
c'est au rôle du gardien. Là, c'est son rôle. Il monte voir la personne.
Il l'empêche.
Excusez-moi. C'est quand même, vous pouvez pas laisser ça là. Vous pouvez le mettre derrière et puis le mettre aux grandes poubelles le jour où il passe. Voilà, ça c'est son boulot traditionnel. Le fait de dire, ça c'est 68 euros. Certes, le mec mettra plus de problèmes, mais alors le rapport entre les deux sera d'une tension totale.
Oui, mais vous y passerez tous. C'est le type qui a fait l'incident.
Oui, mais toi aussi. Un jour, t'auras un problème. Un jour, ton gamin va rentrer et il aura pas ses clés. Il va bombarder la porte. Mais... Et puis, les voisins vont dire, chez les Marshall, c'est un vrai bordel. 68.
On nous l'a dit.
C'est un vrai bordel. Et toi aussi, tu vas dire, putain, vous m'avez foutu une amende pour mon gamin qui est rentré un peu tard. Voilà.
La seule différence, c'est que entre ce que dit Étienne, qui est juste, et le groupe de jeunes qui squattent dans l'immeuble, où t'as le gardien qui vient leur dire, écoutez les gars, arrêtez de foutre le bordel, et je dis, toi ferme ta gueule, sinon on va te bourrer.
Même pas comme ça.
Non, mais ça existe, ça se passe. C'est pour ça que sur l'intervention, à proprement parler, le gardien ne peut pas avoir un rôle répressif, encore une fois. Ce n'est pas possible à mon sens. Et il y a effectivement des unités comme ça. Si ça a été créé, c'est que c'est pas pour rien.
Oui, d'accord.
On l'a pas inventé comme ça.
Oui, d'accord. Mais l'unité, elle vient pour effectivement le moment où il y a des jeunes qui sont dans le hall d'immeuble ou qui empêche de rentrer, etc.
Ça aide la police.
C'est là où tu l'as fait intervenir. Mais pour les incivilités du quotidien, comme le disait Étienne, la planche à repasser, les vélos, le truc que tu descends, ou le matin tu sors de chez toi, le type il a déménagé son appartement. Tu dis c'est pas possible. Comment le mec il peut descendre une armoire et un frigo?
La société a évolué. Si le mec te met un frigo, il est capable de te mettre un coup de poing dans la tronche si tu lui dis ça.
Mais Alain a raison,
Le gardien il sait, il peut monter, lui dire monsieur, désolé.
Mais par exemple, avant j'habitais dans le 16e, il y a maintenant 4-5 ans, avant d'aller dans le 7.
C'est moins bien.
J'ai voulu me rapprocher du peuple et donc je suis passée du 16e au 7e. Et il y a une dame qui mettait tous ses encombrants. Je pense que c'était un problème de. J'ai plus le terme, c'est un terme où on accumule beaucoup. Et elle, j'ai perdu le mot.
Diogène.
C'est ça. Et elle en mettait partout dans le couloir. Et au bout d'un moment, mais on ne savait plus quoi faire.
Donc, oui, mais même dans les quartiers.
Voilà.
T'as raison.
C'est pour te dire, on l'a dit gentiment une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc là, c'est une maladie, c'est encore autre chose. Mais t'as des gens, tu leur dis gentiment une fois, deux fois, trois fois. À la quatrième, c'est bien qu'ils se prennent.
Oui, mais la concierge, là, elle a un vrai rôle. Et elle peut se permettre. Tu fais ça dans la même. Au Baudot, à Sevran.
Oui, mais alors les témoignages. Il y a une concierge qui avait témoigné dans le Parisien. Elle disait mon rôle, c'est quand même de discuter.
Oui.
Et si c'est une incivilité répétée, là, on y va.
Eh bien, on va continuer d'en discuter dans un instant avec Alain qui nous appelle de l'Oise.
On verra
s'il est OK pour que se multiplient ces gardiens assermentés qui peuvent eux-mêmes mettre des PV dans le cas d'incivilité, des encombrants abandonnés, des vols, des jets de déchets par les fenêtres, les trottinettes. Alors ça, le grand truc, c'est en ce moment, c'est ça. C'est les trottinettes électriques que tu retrouves dans les parties.
Dans les écolos.
Parce que le type veut pas la laisser, tu sais, le matin, parce qu'il sait qu'il la retrouvera pas, parce qu'elle sera prise.
Ou le vélo.
Oui, ouais, il l'a monté, elle est sur le palier. Donc on continue d'en discuter avec vous au 32-16, gardien d'immeuble à Sermentes, est-ce que c'est une bonne idée? On regarde, on a une équipe qui dit oui, une équipe qui dit non.
Aidez-moi les gens.
Pour Sarah contre Bruno et Étienne, parce que ils disent que ça va dégrader les relations à partir du moment où on donne du pouvoir de sanction au gardien. Hey. C'est quand même Sarah qui est devant, 58-42.
Merci les auditeurs, merci d'être avec moi, je suis avec vous.
Et il n'y a que les mecs du 16e, hein, 16e
et
17e.
La discussion va continuer avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. On parle des gardiens assermentés dans les grandes gueules avec Sarah Salman, avec Étienne Liebig et Bruno Pomard. Et Sarah aimerait bien que ça se généralise pour régler les conflits de voisinage, empêcher les incivilités. Assermentés, ça veut pas dire, parce que tu sais, quand on dit un gardien assermenté, on imagine tout de suite
l'uniforme.
Voilà, le gars, il va avoir un uniforme.
Mais c'est bien de préciser, limite, ça.
Pourquoi pas, et surtout une arme. Mais assermenté, non, c'est pas ça.
Non, mais t'as raison de le préciser, parce que le grand public pense que assermenté égale uniforme et arme.
Oui, non, c'est pas du tout ça. Mais pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure.
Simplement, qu'ils mettent des PV. Voilà, qu'ils puissent mettre des PV aux ceux qui sont inciviles.
En même temps, on va pas s'adresser aux bonnes personnes, encore une fois, parce que la journée, il y a des problèmes dans les quartiers. Moi, je vois beaucoup les quartiers en politique de la ville et autres où il y a quand même le plus de problèmes. On peut pas le nier. Mais c'est la nuit. Le soir, le gardien, à 22h, il est pas dehors. C'est pour ça que je disais, j'ai eu un message du patron du GPIS dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui a créé ce dispositif. Eux, ils sont là pour intervenir vraiment sur ce qui fait chier la population, c'est-à-dire les incivilités, le bruit, les mecs qui font péter les pétards, etc. Et ça, le gardien va pas pouvoir s'interposer, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai rôle à avoir. Et pour nous, pour les policiers, ça nous aide vachement d'avoir des unités comme ça qui travaillent sur le terrain.
Alors, je précise également qu'il y a de moins en moins de gardiens, hein, quand même, de façon générale.
Alain est avec nous, il nous appelle de l'Oise, bonjour.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Alors,
bonjour.
Est-ce que vous êtes en faveur de ces gardiens assermentés, dresseurs de PV, oui ou non?
Non.
Pourquoi?
Alors moi, la raison que j'évoque, c'est peut-être pas la bonne, mais pour moi, ça serait rétablir une certaine forme des renseignements généraux.
Ouh.
Pourquoi?
Oula.
Parce que dans un immeuble, ce qu'on appelait vulgairement, il y a des années, le concierge ou la concierge, on appelait ça la pipelette.
Oui.
C'est-à-dire c'est la personne la mieux renseignée dans l'immeuble.
Oui.
Sur votre train de vie, sur tout. Et moi, c'est une question de liberté. Et je pose la question, moi, pour moi, peut-être pas un gardien assermenté, qu'on leur donne peut-être un pouvoir, mais une personne assermentée, c'est devant les tribunaux, sa parole fait foi.
C'est sûr, absolument. C'est vrai.
C'est ça qu'il faut voir.
Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas toujours des gens.
Il est dépositaire d'ordre public. Il parle au nom de la.
Vous vous entendez pas avec votre concierge à Paris. Moi, j'habitais le 15e arrondissement, rue de la Convention.
Oui.
Si vous vous entendez pas avec votre concierge, si vous avez un certain train de vie et qui correspond peut-être pas tout à fait à votre déclaration fiscale.
Ça, à la limite, il n'a pas besoin d'être
assermenté. Vous trouvez un quart de redressement, faut pas
dire. Oui, Alain, il n'a pas besoin d'être assermenté pour envoyer une lettre au fisc. Ça a toujours été un sport national en France.
Et
pas de la part du conseil.
La délation et les gens sont champions.
On préfère toujours se faire arrêter par un policier de la police nationale que par un policier de la police municipale. On préfère toujours se faire arrêter par des gens qui ont une formation, qui ont une
assermentée, qu'est-ce qu'il y a, Étienne?
Non, mais je le dis. Non, mais les abus de pouvoir.
Oui,
les abus de pouvoir, ça existe dans la police comme ça existe partout. Mais c'est vrai que c'est connu que moins les gens ont d'expérience et moins les gens ont de reconnaissance et de salaire, d'ailleurs entre parenthèses, plus ils font des abus de pouvoir et plus ils profitent de leur position de supériorité hiérarchique.
Alain, pourquoi vous prenez tout de suite ça par le prisme, voyez, de la dérive? Parce qu'il y a, aujourd'hui, ça peut très bien aussi se passer. La preuve dans les chiffres qui sont donnés, globalement dans l'enquête, la baisse des infractions là où dans les résidences où il y a des gardiens assermentés, c'est plus de 50%. Donc ça prouve que ça marche, qu'il y a la peur de la sanction, la peur de l'amende.
Alors, il faudrait faire quand même regarder où ça se passe réellement. Hein.
À mon avis, le problème, il n'est pas au niveau des gardiens. Dans les grandes cités, le souci, c'est pas des gardiens qu'il faudrait mettre, c'est presque des postes de police.
Oui, on ne reviendra pas derrière, monsieur. Je comprends ce que vous dites, la police de proximité et les commissariats de quartier. On en a remis, hein. Dans les quartiers de reconquête républicaine, il y en a qui ont été remis
Alain,
en place.
C'est presque un peu contradictoire ce que vous dites. Parce que le premier interlocuteur, justement, à la limite même pour le policier, quand il arrive dans un coin, dans une cité, dans un immeuble, qu'est-ce que vous demandez en général?
Oui, gardien.
Vous demandez à voir. Ouais, vous demandez le gardien.
Ben oui, alors, ça revient bien à ce que je vous disais tout à l'heure.
Ben oui, mais ce qui prouve son utilité.
C'est la personne la mieux renseignée, le gardien.
Ben oui, mais celui qui connaît, celui qui sait où ça se passe, celui qui sait qui sont les fauteurs de troubles, qui sont les mêmes et qui est peut-être le premier à même de pouvoir intervenir et verbaliser, c'est le gardien. Donc autant lui faire confiance tout de suite. Quoi.
Je crois qu'il y a un équilibre à trouver, encore une fois. Sarah le disait tout à l'heure, il y a plusieurs centaines de gens qui sont assermentés. Je pense que c'est un endroit bien spécifique. Il y a d'autres endroits, très sincèrement, où ce n'est pas possible. Il faut savoir que quand je parlais de ces groupes de GPIS, etc., ils font du renseignement. C'est-à-dire, ils renseignent la police, etc., sur tout ce qui se passe. Parce que ce qui emmerde encore une fois les gens dans ces quartiers-là, c'est le tapage nocturne, les incivilités. C'est pas tant le mec qui aura posé sa gazinière en bas. Hein. Je veux dire, c'est ça le truc. Ce qui emmerde réellement dans ces grands ensembles, ce sont les jeunes qui foutent le bazar.
Et là, tu te trompes parce que même dans les quartiers dans l'ouest parisien, si on prend un exemple, le tapage nocturne, tu l'as aussi. Enfin, Alain,
Oui, t'as raison.
Aucun quartier n'est épargné par le tapage nocturne. Et ils en ont rien à faire, justement, payer la
On a cru qu'on donnait de la. On mettait de la
sécurité.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la société. Regarde comment la société a évolué. On a supprimé les gardiens parce que ça revenait cher. Il fallait entretenir le logement, ou payer le logement, payer une personne, et on s'est dit on va faire des économies. Et puis pour la sécurité de tout le monde, Digicode. Et donc tu sais, on a équipé tous les immeubles. Retenez votre code 43-21. C'est pratique et vous verrez, plus personne rentrera.
Tout le monde
derrière maintenant. Tout le monde avait
le
code.
Tout le monde a le badge.
Tout le monde a le badge. Et donc on commence à remettre des gardiens qui peuvent filtrer en disant lui je sais qui c'est, le livreur je le connais, eux je sais qu'ils habitent à tel endroit, etc. Et donc on a de nouveau besoin de présence humaine parce que la présence humaine
c'est ça les mots de notre société, c'est qu'on a plus personne
dans les immeubles, dans les cités, on leur donne plus de pouvoir, on a
besoin de présence humaine qui ne soit pas systématiquement dans l'ordre répressif, tu vois par exemple
avec des responsabilités,
tu vois par exemple le ce qu'on appelait le contrôleur du métro ou le contrôleur de l'autobus, c'était un monsieur qui prenait ton ticket, qui le contrôlait, tu le reconnaissais le matin parce qu'il était là tout le temps, tu disais tiens bonjour monsieur, ça va le gamin et tout, bon voilà. Aujourd'hui, on les a supprimés et on remet à la place des vigiles. Mais automatiquement, le rapport aux vigiles ne peut pas être celui que nous avions avec le contrôleur. C'est-à-dire que le rapport avec l'ordre répressif, humainement, le rapport à l'ordre répressif n'est jamais le même rapport qu'avec un citoyen lambda qui fait son
taf. Si t'as payé ton billet,
c'est inscrit dans nos gènes. C'est comme ça et c'est pas franco-français. Mais... Donc je pense qu'il faut remettre des travailleurs et pas des gens qui travaillent, de l'humain, travailleur et pas
du dialogue. Donc c'est ça.
Mais c'est toute la difficulté de nos sociétés parce qu'on a abandonné ce terrain. Tu connais l'associatif, moi aussi. Le maillage associatif a un rôle hyper important aussi. On parle toujours des cités, mais c'est vrai que malheureusement, c'est là où on trouve le plus de personnes, je dirais, concentrées, et que les problèmes sont évidents. À partir du moment où on va remettre de l'humain au centre de tout, je pense qu'on gagnera. Même pour la police, hein, c'est un vrai
travail d'anticipation pour la police. Tu sais, quand par exemple, moi j'ai fait un bouquin où je comparais la ville de mon épouse qui s'appelle les pauvres préfèrent la banlieue, et où je comparais la population du village de ma femme, Arnay-le-Duc, où il y avait 3000 habitants, à la cité sur laquelle je travaille, où il y a aussi 3000 habitants, sauf que eux, c'est sur 10 km sur 10 km, et moi, c'était sur 800 mètres sur 800 mètres. C'est-à-dire que le même population, sauf que nous n'avons pas une boutique, nous n'avons pas un magasin, nous n'avons pas un bar, nous n'avons rien n'a été installé. Ça veut dire qu'on demande à un endroit où il y a autant d'habitants qu'il y a dans un village, de se comporter différemment d'un village. Mais en réalité, quand tu fais à la fin de l'année, toi qui es avocate, quand tu fais à la fin de l'année, le nombre de troubles qui s'est passé, le nombre de gens qui se sont suicidés, le nombre de gens qui ont été écrasés en voiture, on arrive au même résultat, sauf que dans une ville comme Montreuil qui fait 100 000 habitants, évidemment qu'il y a plus de faits que dans un village de 3 000. Mais ce qu'il faut toujours comparer, c'est au nombre d'habitants.
Je remercie Alain d'avoir été avec nous. C'est un autre Alain. Le premier était de l'Oise. Le Alain qui arrive maintenant est du côté de la Mayenne. Bonjour Alain.
Bonjour à tous, bonne année, j'en profite pendant qu'il est encore
temps. Merci, meilleur
vœu. Il est encore temps. Vous êtes où en Mayenne? Vous habitez où?
J'habite dans un petit village, Lassay-les-Châteaux.
D'accord. Quel temps vous avez aujourd'hui du côté de la Mayenne?
Bon, c'est moyen.
C'est moyen en Mayenne?
Moyen. Ouais.
C'est moyen. Alors, est-ce que vous êtes pour ces gardiens assermentés, oui ou non?
Ah oui, à 100%.
Pourquoi?
Tout simplement parce que j'ai vécu pendant plus de 30 ans en oui. HLM, dans le 18e arrondissement, donc pas vraiment du 16e, n'est-ce pas Bruno?
Ah mais j'habite pas dans le 16e.
Non,
c'est
non,
c'est
mais
ah,
tout pardon. À l'heure, la remarque avait été faite en disant oui. que les gens qui étaient pour soutenir Sarah étaient plutôt du 16e.
C'est faux, non.
Voilà, donc là, moi, j'étais dans le 18e, du côté de la Porte de la Chapelle.
Un d'accord, beau, un beau le quartier, nord de Paris. Hein. Ouais.
Ouais. Donc, je suis arrivé, moi, en HLM, il y avait un gardien sermenté. Gardien sermenté, ça veut pas dire un flic. Mmh. Ça veut dire un gardien qui travaille pour faire respecter le règlement intérieur
eh oui.
et pour faire respecter le calme et au besoin, je dis bien au besoin, pouvoir dresser une amende qui serait prise sur le loyer, c'est ce qui se faisait, et qui était d'une façon très très, je dirais mesurée, mais hyper efficace.
Il y a combien d'années Alain ?
Moi, il y a 30 ans de ça.
Oui, il y a 30
mais
ans.
Mais le but, c'est que ça soit dissuasif, en fait. C'est pas de voilà. mettre les PV.
Non, mais gardien... monsieur.
Non, j'ai entendu, j'ai bien compris.
Il y a 30 ans, ça marchait, excusez-moi, Alain. Oui, ça, oui. ça marchait. Mais ça marchera pas évidemment
le
aujourd'hui.
Le gardien sermenté est parti à la retraite. Quelques années après, donc 5 à 10 ans après, il était remplacé par deux gardiens qui n'étaient pas assermentés. Et là, ça a été. Une catastrophe monumentale. Tout est parti à volo. Plus de respect, plus rien. Et jusqu'au jour où même les gardiens se faisaient plus ou moins agresser, où les loges oui. étaient
saccagées,
ouais. voilà. Donc, ouais.
Mais c'est que depuis 2018 qu'ils sont assermentés.
Le GPS, effectivement, il existe. Le problème, c'est que vous l'appelez, alors vous avez le répondeur en attendant, on vous demande des renseignements, il faut attendre qu'ils puissent venir, parce qu'ils sont oui, pas toujours ça. Disponibles. Donc quand il y a quelque chose qui se passe, ils arrivent, c'est trop tard, ils sont partis.
Et voilà.
Les fauteurs de troupes sont partis.
Oui, voilà. Mais monsieur...
Même, donc, non, il a raison. Le jour ou la nuit, donc la nuit, effectivement, c'est difficile d'avoir un gardien de nuit.
Voilà, mais Alain, si vous avez 30 jeunes dehors la nuit qui balancent des feux d'artifice, etc., je vous mets au défi d'envoyer un gardien leur dire « arrêtez, calmez-vous ».
Même le GPIS, quand ils viennent à 3, c'est pas
c'est
suffisant.
Le père d'un des gamins.
Non, parce que le GPIS arrive et généralement, il y a un renfort, arrive à la police derrière. Non,
oui, mais
non,
tu vois, tu
faut
vois
pas
par
être
exemple,
gêné...
regarde, c'est intéressant ce que tu dis, oui. Bruno. Par exemple, il y a aussi des tas d'expériences dans lesquelles on mêle, dans un travail de communication, les familles avec cette question-là. Et par exemple, sur les questions, alors je connais pas bien cette question-là, mais sur les questions des rivalités entre quartiers, on sait très bien, par exemple, que le seul moyen de résoudre ça, c'est que les parents soient impliqués.
Ah ben, oui,
et par
c'est
exemple,
vrai, ouais.
c'est de et bien par exemple, l'autogestion d'une organisation par les parents, parce que à la place de les considérer comme des gens inutiles, on les considère à ce moment-là comme des gens utiles. Par exemple, c'est une façon différente de voir les parents, et je te promets que c'est extrêmement.
Est-ce qu'on a vu avec les mamans à Marseille ou les darons à Lyon?
Partout.
Les darons qui interviennent dans les
darons, mais les pères aussi.
Oui, mais ils vont pouvoir le faire.
Merci. Souvent les femmes.
Bah, il faut des adultes.
Oui, vous savez que les amendes qui sont prises sur les loyers sont quand même efficaces dans la mesure où les parents sont responsabilisés parce que ça touche au porte-monnaie.
Ah bah ça,
toujours taper au portefeuille. Merci Alain, passez une bonne journée
beaucoup.
Du côté de la Mayenne.
Merci,
à bientôt.
À bientôt. À vous Sarah, continuez.
Merci beaucoup.
À bientôt mon cher Alain. Alors, quel est le résultat de la consultation? Oui ou non, est-ce que Sarah aura eu raison contre le reste du monde? Doit-on généraliser aujourd'hui les concierges assermentés?
Elle vous a éclaté.
57%, elle a éclaté tout le monde.
Vous avez éclaté,
elle
vous êtes deux, vous n'y arrivez même pas.
Quand tu dis que tu es éclaté au
sol. Claqué au sol.
T'as tout le 16e et le 7e qui a voté pour elle.
Non mais n'importe quoi. Et Neuilly.
Allez, ouais. Si vous aimez le débat, ça continue sur RMC et RMC Story avec Estelle Denis. Encore félicitations pour ce beau record d'audience hier sur RMC Story, ma chère Estelle.
Merci Alain, c'est
bonjour.
Gentil. Bonjour à tous. On va parler des autoroutes, des super profits. Ah ouais. 30 à 35 milliards quand même d'ici 2036, ça va pour eux. Et pourtant, des tarifs de péage en hausse. L'État doit-il reprendre la main sur les autoroutes? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16.
Ça coûte un petit billet de 50 milliards quand même.
Et alors, c'était
ça va. Ouais, tiens. C'est sûr qu'on
peut reprendre la main en 2026.
Oui.
C'est les 40 ans de la mort de Louis de Funès aujourd'hui.
Oui.
Quel acteur pour lui succéder dans le cœur des Français? C'est pas facile.
En comique
Olivier Dussopt. Non. Ah, très drôle en ce moment.
Mais il est pas vu venir.
Moi non plus.
Celui qui joue dans comment on a fait ça du
Tu vises mal ou quoi là?
Hein? Du Rouvre, comment il s'appelle là?
Jean-Paul Rouvre. Non, Jean-Paul Rouvre, ouais,
du Rouvre. Jean-Paul Rouvre.
Non. Bon,
enfin,
faites votre choix chez Estelle.
En tout cas, ça, ce sera à 12h30. Et puis, 27 millions de rendez-vous médicaux non honorés. Chaque année, faut-il faire payer les patients qui ne se présentent pas à leurs rendez-vous médicaux? Ça, ce sera à 14h. On vous attend nombreux au 32-16.
Bonne discussion avec Estelle et à lundi.